Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Je suis en compagnie d'Olivier de Massico lors de la porte ouverte BioVallée. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 septembre et nous profitons de l'occasion de cette porte ouverte BioVallée pour réaliser une émission avec un des nombreux exposants qui expose ici, à savoir Olivier Massico des Amanins. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si tu connais Biotope, je vais resituer un petit peu, c'est une émission qui retrace un peu les initiatives prises par des associations, des entreprises, des institutions, pour faire en sorte que cette vallée soit la plus bio possible. Et bien donc, on pourrait tout simplement faire une genèse des Amanins.
Ok, donc les Amanins, c'est un projet qui commence à être assez connu, on va dire, sur le territoire de la Biovallée. Donc c'est un projet qui est issu de la rencontre de deux personnalités qui sont Pierre Rabhi, donc paysan philosophe, pionnier, on va dire, de l'agroécologie en France, et Michel Valentin, entrepreneur qui a fait pas mal d'argent dans différents secteurs industriels et autres du commerce. Voilà, donc Pierre Rabhi, qui était dans une dimension de vouloir sensibiliser et divulguer un peu plus l'agroécologie, et Michel Valentin, lui, qui était plutôt dans une recherche de sens suite à un moment difficile de sa vie où toute la partie en jeu, faire de l'argent, il savait faire, mais il voyait qu'en fait, ça l'amenait pas forcément quelque part. Voilà, donc les deux sont rencontrés et puis tous les deux, en fait, ils ont décidé de mettre en place un lieu qui soit une ferme, qui puisse accueillir du public et qui réponde à deux questions qui sont: quels enfants laisserons-nous à la planète et quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Du coup, tous les deux sont rencontrés, ils ont commencé en fait à réfléchir à ce projet. Donc il fallait une ferme parce que quand on parlait en fait de quelle planète laisserons-nous à nos enfants, il s'agissait de réfléchir au maximum et de créer au maximum avec une empreinte écologique minimum. Donc parler des autonomies. Donc la première autonomie, elle est alimentaire. Donc une ferme en fait pour produire ce qu'on allait manger dans ce lieu-là et produire de manière raisonnée, saine et respectueuse de l'homme et la nature. Du coup, une autonomie énergétique, c'est-à-dire que sur place, voilà, il y a de l'éolien, du thermique solaire, enfin, différents types d'énergie.
De la biomasse ?
Il n'y a pas de biomasse, en fait. On est plus sur du bois fragmenté, enfin déchiqueté, et sur du bois bûche. Voilà, donc la deuxième autonomie. La troisième, c'était, ça l'est toujours, hein, c'est l'éco et l'autoconstruction, c'est-à-dire construire en architecture de cueillette, donc avec ce qu'on trouvait sur place, la paille, le bois et la terre, parce qu'on a une bonne terre propice, on va dire, aux Amanins pour construire. Et puis du bois qui venait des environs, hein, du Douglas, PFC. Là. Du coup, il y avait ces trois autonomies-là, qui sont typiquement Maslow, hein, se nourrir, se loger, et puis faire de telle manière, en fait, pouvoir se loger et se chauffer, quoi. Et puis très rapidement, sont venues deux autres notions dans l'autonomie, c'est de se dire, on peut manger bio, on peut chauffer avec du thermique solaire, mais continuer à exploiter son voisin. Donc globalement, en fait, c'était de réfléchir, de se dire, ok, finalement l'enjeu fondamental aujourd'hui dans l'écologie, si on parle de changement de paradigme, de sobriété, comme dit Pierre Rabhi, c'est de se réapproprier l'art de la rencontre, l'art d'être ensemble, c'est-à-dire la coopération, l'écologie relationnelle. C'est quelque chose qui est venu s'intégrer au projet, de se dire, ok, on monte un projet comme ça, mais peut-être le challenge, c'est pas tant de construire et co-construire, ou de manger bio, c'est peut-être simplement en fait de bien réussir à faire ensemble, quoi. C'est-à-dire d'expérimenter d'autres formes de gouvernance et de faire ensemble. Voilà, donc il y avait ces autonomies-là, et je termine, il y a une petite quatrième, qui est venue en fait de Michel Valentin, c'est qu'aux Amanins, si vous voulez, en fait, se joue énormément l'autonomie économique. C'est-à-dire que beaucoup de projets écologiques jusqu'à présent étaient plutôt montés de manière associative, à la recherche de financement, et l'argent, c'était pas bien, c'est mal. Et Michel, il venait pas du tout avec cette dimension-là. Lui, l'entrepreneur, l'argent avait sens, parce qu'elle permettait de faire des choses. Donc du coup, Michel a hyper œuvré pour que les Amanins soient une structure qui parle d'autonomie économique, mais en parlant de l'argent à travers un cycle du vivant, c'est-à-dire l'argent au service de la vie et pas l'argent au service du profit.
Encore heureux qu'il avait cette optique-là, parce que s'il n'y avait pas eu cette autonomie financière, peut-être seriez-vous déjà mort. Enfin, il faut quand même que les dépenses soient légèrement inférieures aux recettes, enfin qu'il y ait un équilibre. Sinon, une structure, quand bien même elle ait des beaux objectifs, finirait par défaillir. Alors justement, où en êtes-vous de votre autonomie financière, puisqu'on y est ?
Bon, les amarins, du coup, dans la construction, il y a une association qui s'est fondée, il y a une SCI qui s'est fondée. Donc l'argent venait de Michel Valentin, c'était lui qui finançait tout ça sur ses propres deniers, c'est-à-dire même pas de l'argent de ses entreprises, hein, c'était sa fortune personnelle. Il faut savoir que lui, tous les matins, il était là de 7h jusqu'à 19h. C'était pas juste un mécène qui donnait de l'argent, qui regardait comment ça se passe. Il œuvrait au quotidien là-dedans, c'était devenu son emploi, quoi. Et du coup, en fait, après, c'est créé une SCOP, une société coopérative de production. L'idée, c'est de redonner aux salariés leur outil de travail. Et la SCOP, en fait, donc, elle a été créée en 2008. Et on va dire que l'année 2013, c'est vraiment pour nous l'année de l'autonomie. C'est-à-dire, au bout de 5 ans, on commence à dégager des bénéfices. Bénéfices, en fait, qui sont reversés à l'intérêt collectif. Parce qu'en fait, l'idée des amanins de la SCOP, c'est pas de croître pour croître. C'est d'arriver à un niveau d'infrastructure sociale, c'est-à-dire de ressources humaines, qui nous permettent en fait de bien fonctionner, d'accueillir plein de personnes pour pouvoir les sensibiliser et leur faire vivre une belle expérience. Mais par contre, tout ce qui va au-delà de ces besoins d'investissement et de ressources humaines, en fait, on ne le garde pas pour le restituer aux personnes qui travaillent dessus. C'est réinjecté à travers une location du lieu à l'association qui peut, elle, après réinvestir dans des projets d'éducation où, à la base, c'était prévu des projets de solidarité internationale. Donc aujourd'hui, on va dire que nous, le gros enjeu, donc en 2013, suite au décès de Michel Valentin en 2012, parce que lui continuait en tant qu'associé à aider à travers un apport en compte courant la SCOP à se structurer. Du coup, 2013, en fait, on a réussi à avoir suffisamment d'activités pour ne pas avoir besoin d'apport extérieur, voire même, on peut dire aujourd'hui que les amanins commencent à avoir une aura qui lui permet d'avoir un remplissage très intéressant et qui nous permet vraiment de faire le travail dont le projet était fait pour faire.
Est-ce que tu as une idée du montant qui était investi originellement pour lancer les amanins?
Bien sûr, ouais. Les amanins, ça a été un investissement de près de 3,5 millions. Entre tout le montage de projet, l'achat du lieu, tous les investissements de matériel et humain pour construire, et puis après, on va dire, plus les investissements infrastructures et de mise en place de l'entreprise.
De nos jours, votre chiffre d'affaires, il est de combien?
Donc l'association, je crois qu'elle est autour de 80 000 euros sur l'année. Donc l'association, elle gère l'école, les classes découvertes, c'est-à-dire la transmission plutôt liée à l'éducation. C'est le garant éthique des amanins, c'est elle en fait qui doit faire attention à ce que ce projet reste dans son cadre. Et la SCOP, elle, c'est un chiffre d'affaires qui est autour de 400 000 euros. Donc la SCOP, son rôle en fait, c'est de travailler, d'œuvrer sur la terre, donc de produire, de transformer les aliments et de sensibiliser les gens et d'être dans l'accueil. Voilà, et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que donc l'association, elle emploie 3 personnes aujourd'hui, l'équivalent de 2,5 temps plein, et la SCOP, elle emploie 11 personnes. Je veux dire, l'équipe qui œuvre, parce qu'on parle d'association et de SCOP, mais c'est le projet des amanins. Ces structures, elles n'ont eu lieu que pour aider à créer et à légaliser, on va dire, juridiquement, le lieu dans notre société, pour qu'on puisse vraiment œuvrer. Donc c'est quand même un projet qui aujourd'hui crée à peu près une quinzaine d'emplois.
Tu as parlé des différentes activités des amanins. Est-ce que tu pourrais approfondir? Bon, je crois qu'il y en a 3, l'accueil, l'activité agricole et l'école.
Tout à fait. Donc c'est ça, le centre agroécologique des amanins. C'est une ferme sur 55 hectares en polyculture élevage, dans laquelle il y a du maraîchage, à peu près 2 hectares. Il y a un travail céréalier sur grand culture d'à peu près une douzaine d'hectares. Et puis il y a un élevage en fait ovin d'à peu près 40 brebis, 2 vaches, des cochons, des poules, ce genre de choses. Ça nous permet, à travers une transformation fromagère et un laboratoire, un paysan boulanger, de faire notre nourriture. Hein. Donc ça, c'est la partie ferme. Il y a une partie école, qui est une école privée, laïque, mais qui a pour objectif, en fait, de rentrer sous contrat avec l'État. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas posée en alternative du système, elle s'est plus posée comme un lieu d'expérimentation qui peut après restituer à l'éducation nationale de nouvelles pratiques, on va dire, pédagogiques. Donc le projet pédagogique mis en place dans cette école est dit coopératif. En fait, on enseigne aux enfants à faire ensemble, mais on suit l'instruction publique. Et puis, il y a le centre d'accueil, un lieu de formation, un lieu de séjour touristique, vacances, dans lequel à la fois on a des vacances écologiques, donc participatives, où les gens vont apprendre des choses tout en se rencontrant, et puis des stages, donc qui sont plutôt une question de transmission. On va transmettre quelque chose de particulier vers un stage autour de créer son éco-projet, autour de la pédagogie coopérative, autour de l'éco et de l'autoconstruction. Voilà, il y a différentes possibilités. Et puis des forums, ce qu'on appelle, avec des conférences, qui sont plutôt des moments d'intelligence collective, où on va aller approfondir sur un thème, aider en fait à faire ressortir des problématiques. À côté de ça, en fait, l'accueil, donc ça, c'est plutôt l'accueil amanin pur. Et après, on accueille aussi des séminaires, donc des associations pour leurs âgés, des entreprises pour des séminaires et des stages externes. Par exemple, sur le territoire de la Biovallée, on a un partenariat avec l'École de la Nature et des Savoirs qui ont un lieu pour former, mais qui est un lieu plutôt estival. et du coup qui viennent aux Amanins pour poser leur stage pendant les périodes d'hiver. Donc en fait, ils ont eux-mêmes leur identité, mais ils viennent la poser aux Amanins, donc ça crée de la cohérence et puis ça crée du lien sur le territoire.
Alors ce volet transmission de savoir a l'air d'être assez important, mais comment vous accueillez les gens? Vous avez aussi un certain nombre de gîtes où ils campent,
ouais,
les gens?
Oui, bien sûr. Alors quand je parlais de centre et de lieu d'accueil, on va dire, il y a une salle de conférence de 180 mètres carrés, avec actuellement deux salles subsidiaires d'à peu près 40 et 50 mètres carrés. Là, on pense à en développer une autre un peu plus grande. Et il y a des hébergements éco- et autoconstruits, voilà, donc une capacité d'une quarantaine de couchages donc sur toute l'année. Et pendant la période estivale, on a 6 ou 7 cabanes, sauf que je ne me souviens plus, qui sont équivalents d'une trentaine de couchages, et une partie camping sur à peu près 20 couchages, voilà, pas 20 tentes, 20 places. Voilà, ce qui nous donne une capacité, on va dire, de 40 à 80, suivant les saisons. Donc les gens viennent, suivent l'expérience qu'ils ont choisi de vivre, se rendre compte que les Amanins, c'est un vrai carrefour d'échange, en fait, et un lieu d'expérimentation de la coopération, mais carrefour d'échange. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu où les gens disent ils viennent pour se ressourcer, pour se recharger, parce qu'en fait, il y a de la rencontre, et on partage et on peut échanger avec des personnes qui, comme nous, des fois, peuvent se sentir isolées dans leur quotidien par rapport à des modes de réflexion différentes. C'est les créatifs culturels, quoi. C'est toutes ces personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne plus très rond, qu'il y a des alternatives, qui ont une sensibilité, mais souvent qui ont du mal à le partager avec leur contexte local, et qui viennent aux Amanins et qui peuvent se recharger et qui deviennent acteurs après. Donc tout ça, c'est relié au réseau Colibri. Du coup, on peut venir vers ça aux Amanins. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on mange aux Amanins, c'est produit sur place à 80%. On fait notre farine parce qu'on a notre blé, on a notre moulin, on fait notre farine, et on a un four à pain et un boulanger, on fait notre pain. On fait nos fromages, nos yaourts, notre beurre, notre lait. On fait une grande partie de notre viande parce qu'en fait, on a les cochons et les brebis. Et puis, on a nos légumes. Et tout ça, c'est transformé en cuisine, c'est transcendé en cuisine. Et donc, quand on vient aux Amanins, ce qui fait sens aussi, c'est ça, c'est qu'on s'assoit à une table, ce qu'on mange, en fait, c'est produit sur place. Donc, on est dans un circuit complètement court, complètement autonome, on va dire. On achète en extérieur, hein, tout ce qui est épicerie sèche. Et quand des fois, en fait, on a trop de personnes qui sont là et qu'on peut pas tenir avec notre production. Et ça, ça touche énormément les gens de se dire, OK, je suis dans un lieu et ce que je mange, ça a été produit par ceux. Et il y a une superbe diversité, quoi.
C'est tout à fait dans la droite ligne du message de Pierre Rabhi, de toute façon. C'est côté, ouais, pas autarcique, mais en tout cas d'autosuffisance.
Voilà. Alors, on n'est pas dans l'autarcie, c'était pas du tout l'objectif. Pierre Rabhi, oui, bien sûr qu'il dit ça, Pierre, en fait. Lui dit que le premier acte politique, c'est faire son potager, c'est à retrouver son autonomie alimentaire. Donc les Amanins, effectivement, c'est un ancrage. Aujourd'hui, en fait, donc on est en septembre 2013, en fait, on est en plein dans un énorme audit agricole où on est en train de revoir toute la partie agricole des Amanins parce que c'est notre ancrage. Parce qu'on a été en baisse de production et de technique, et là, on est en train de reprendre une ambition à cet endroit-là. Mais quand l'équipe des Amanins a décidé de retravailler sur la partie agricole, c'était pour nous retravailler sur notre appropriation de notre terre. Et quand on parle de la terre, on parle de l'humus, on parle de l'humain, hein, c'est la même racine, c'est la terre, quoi. Humain, humus, humanité, humour, tout ça, ça vient de la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille et quand on s'intéresse à l'humus de notre terre, là où on est posé, finalement, on s'intéresse à notre humus et à l'humus du projet, donc c'est-à-dire au fondement du projet. Voilà, donc du coup, c'est vrai que Pierre, il parle de tout ça. Et je disais, autarcie, autonomie, nous on n'est pas dans cette autarcie. Un écosystème en fait pour qu'il vive, soit il est fermé, et auquel cas en fait il a un rôle précis à un moment donné dans l'environnement, mais c'est-à-dire qu'il est voué à disparaître, soit en fait il est ouvert, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans sa membrane, mais en fait il accepte des choses qui viennent en fait l'aider à se reconstruire, à évoluer, à se développer. Et les Amanins, c'est exactement ça.
Alors tu as parlé de réseau Colibri tout à l'heure, mmh, et tu as parlé aussi d'ouverture sur le monde, et c'était effectivement important pour éviter de devenir un petit peu sectaire, même si vous aviez d'excellentes idées. Est-ce que tu pourrais parler de votre ouverture sur ce monde? Et vous faites partie de réseaux, vous faites partie de certains cercles?
Ouais, tout à fait. Bah, bon, alors, le premier cercle, on va dire, ce qu'on appellerait le premier cercle, c'est toutes les structures qui sont issues de la pensée de Pierre Rabhi, donc le mouvement des Colibris, Terre et Humanisme, le Hameau des Buis, les Oasis en tout lieu. Ces structures-là, on va dire que c'est des structures avec qui on partage une charte, qui est la charte pour la terre et l'humanisme, et qui sont des structures assez puissantes, puisqu'il y en a un, c'est un éco-hameau, les Amanins, c'est plutôt un lieu de partage, de formation, et Colibri, c'est vraiment un réseau méta qui permet de montrer que sur chaque territoire, il existe plein d'alternatives, plein de mouvements créés par la société civile, qui est en train déjà de transformer, d'innover, de faire des choses. Donc déjà, nous, on est hyper ancrés là-dedans. Donc ce qui fait qu'aux Amanins, les gens qu'on reçoit, c'est pas des écolos convertis, c'est des gens lambda. Il va y avoir, je sais pas moi, un magasinier chez Intermarché, un étudiant en architecture, un ingénieur, un ouvrier. Enfin là, c'est des gens qui sentent qu'il y a quelque chose et qui veulent devenir acteurs de leur vie, Voilà, donc ils viennent là. À côté de ça, bon, bah, on est très reliés à des structures comme l'École de la Nature des Savoirs, à la NEF. Il y a beaucoup de structures à l'Université du Nou, voilà, l'UDN pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est toutes ces structures qui réfléchissent des nouvelles gouvernances, qui essaient de trouver des alternatives et de les passer terre de lien, enfin, voilà, à un autre niveau. Ouais, on est pas mal reliés à beaucoup de choses. On est reliés à la fois à des réseaux, mais à la fois on est reliés, on va dire, à la société du fait des statuts de nos différentes structures qui composent les Amanins et des citoyens. En fait, les Amanins, ça n'a lieu d'être que parce qu'il y a des citoyens qui trouvent du sens à venir dans ce lieu-là. Nous, notre modèle économique, il est posé sur de l'accueil. Les Amanins, ça pourrait être qu'une école et qu'une ferme qui produit et qui vend en extérieur. Mais ce qui fait sa différence aujourd'hui, c'est que cette école, en fait, et cette production, la production est destinée aux gens qui viennent, et les gens qui viennent, en fait, aident à faire fonctionner ce projet et à faire fonctionner l'école. Donc, on va dire, c'est grâce aux citoyens, en fait, qui résonnent par rapport à la raison d'être de ce projet des Amanins que ce projet peut exister et se développer.
Et qu'en est-il de votre implantation locale par rapport, par exemple, ou les agriculteurs plus traditionnels qui vous entourent, ou les habitants du Val-de-Drôme? Comment vous êtes perçus? Est-ce que vous êtes des joyeux uluberlus un peu perchés, ou est-ce que vous êtes vraiment suffisamment ancrés, voire sérieux? Tu sais, il y a un proverbe taoïste qui dit « Si tu veux diriger les hommes, marche derrière eux ». Et le pire qui puisse arriver à des gens qui ont des idées excellentes, c'est d'être trop loin devant. Qu'en est-il de votre implantation locale alors?
Bah, je crois qu'en fait, au début, le projet des Amanins n'était pas super bien perçu. Je pense que comme tout projet, en fait, souvent, il faut faire ses preuves pour être accepté par les siens. C'est-à-dire que je pense que les Amanins, du fait que ce soit un acteur privé qui a monté ça en dehors, en fait... des acteurs politiques locaux, même s'il y a une sensibilisation des acteurs politiques au départ. Beaucoup ont attendu en fait, de voir si ce projet allait tenir la route, allait pouvoir se faire. Et je crois que le projet bah, il s'est lancé en 2004, avec les constructions en 2005 qui sont terminées en 2009 après la SCOP. Là, on en est à 8-9 ans d'existence. On commence à avoir un vrai retour, on va dire, de notre territoire. Mais ce qui est très intéressant, là, bah, on est dans l'émission Biotop, hein, l'émission de la Biovallée, c'est que nous, on s'est ancré dans ce territoire. C'est un hasard si les Amanins s'est mis sur ce territoire. Il n'y avait pas de vision stratégique par rapport au projet Biovallée. Mais aujourd'hui, on voit que les Amanins, c'est un ancrage pour la Biovallée et la Biovallée, un ancrage pour les Amanins. Et j'ai envie de dire que c'est chargé de sens. Donc du coup, la Biovallée a évolué, a grandi. Parallèlement, les Amanins aussi. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin en fait, de lien, de vrai l'un avec l'autre, qui est super intéressant. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau local, on a dû faire notre place. Aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, nous la reconnaissent. On les en remercie parce que c'est un sacré soutien, à la fois des citoyens et à la fois des acteurs politiques. Du coup, c'est vrai que c'est plus simple pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a eu un long moment, c'était un peu compliqué. L'image des Amanins pouvait être un peu mal vue. Puis il faut prendre conscience aussi que les Amanins, ça a été porté par un entrepreneur qui lui-même ne savait pas du tout où il mettait les pieds en montant un projet avec Pierre Rabhi. Donc il avait, lui, une culture peut-être un peu violente de la culture d'entreprise, hein, qui était « on avance, on fait ce qu'on a à faire ». En face de lui, il avait des écolos qui étaient soi-disant dans l'amour, la bienveillance et tout ça, et qui sont venus se tester. Hein. Il y en a beaucoup qui sont partis, donc ils sont allés travailler leur bienveillance sans doute ailleurs. Mais voilà, en fait, tout ça, ça a modelé quelque chose, quoi. Ça a fait les formes des Amanins. Et cette forme, en fait, aujourd'hui, elle est reconnue. Et c'est ça qui est intéressant, elle est retenue par ce territoire, quoi, par ce paysage, on va dire.
Quand tu as parlé de séminaires, de conférences et d'accueil, c'était majoritairement en matière d'agroécologie que vous proposez des séminaires. Quels sont les thèmes de prédilection de votre accueil en fait?
Alors en fait, donc l'agroécologie, pour nous et dans la vision de Pierre Rabhi, en fait, c'est pas des pratiques nécessairement des pratiques agricoles. C'est un art de vivre. C'est de reconsidérer, on va dire, la place de l'homme dans la nature. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est prendre soin de la terre. C'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on prend à la terre, on les restitue. Parler de cycle du vivant et parler d'humus, quoi. Voilà, travailler son humus, quoi. Donc on est un peu dans ces fondements-là. Nous, ce qu'on propose, les grandes thématiques des Amanins, elles sont liées à ces trois fondateurs. Donc, il y a l'agroécologie et le changement humain pour un changement de société autour de Pierre Rabhi, l'éco-entrepreneuriat autour de Michel Valentin et l'éducation, éduquer pour élever les consciences, autour d'Isabelle Peloux, qui est la directrice de l'école. Donc c'est vrai que les thèmes, en fait, souvent des forums sont axés là-dessus, les thèmes des conférences aussi. Donc on a trois grandes conférences dans l'année, plus une grande fête qui est la fête des Amanins pour la Terre et l'Humanisme, où en général c'est une superbe fête qui regroupe entre 500 et 1000 personnes sur une journée. Et après il y a des stages, et les stages en fait, il y a différentes transmissions, ça peut être aussi bien sur les gouvernances écologiques, sur l'éco-projet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un éco-projet aujourd'hui, travailler ça, s'il y a des porteurs en fait, essayer de leur faire comprendre ce que c'est, la pédagogie coopérative, d'autres pédagogies, c'est-à-dire à d'autres personnes qui viennent poser des stages aux Amalins sur l'éducation, l'éco et l'autoconstruction, le lien à la terre. Voilà, on est dans une sensibilisation. Les Amalins, c'est un peu comme un tronc commun qui fait partager différents intervenants sur un thème qui va pas vraiment dans la profondeur, qui est juste là pour susciter l'intérêt et dire, bah tiens, si tu as telle sensibilité, va par là, va par là. Et voilà, donc du coup, on est plutôt là-dessus. Il y a des pauses partagées aussi, ce qu'on appelle, qui sont des week-ends de 3 jours pour faire une pause. Vraiment bon rythme, tranquille. Et on rencontre une personnalité. Ça peut être Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Éric Julien. Enfin voilà, on a un moment exceptionnel, on va dire, parce qu'en petit groupe d'une trentaine, on sort de la conférence, on est plutôt dans la rencontre du personnage. Et puis on a des séjours fêtes qui sont dans les vacances scolaires tout le long de l'année, les séjours à la ferme donc qui sont pendant l'été. Type séjour fête, on en a un à la Toussaint là et un au Réveillon qui est autour du Réveillon. Et tout ça en fait c'est en mouvement constant, c'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on transmet, on a mis en place une offre, mais on sent qu'il faut la revisiter parce qu'en fait on la revisite en fonction des demandes et des besoins des citoyens qui passent aux Amalins. Donc là par exemple on sent qu'il y a une évolution à donner. Et on est en train de la faire avec d'autres partenaires, l'École de la Nature et des Savoirs, l'Université du Noux, Transition Network, enfin voilà, différents acteurs Colibri avec qui on essaie de réfléchir pour être encore plus pointu, plus précis en fait dans ce qu'on offre.
Tu n'es pas sans savoir qu'il y a une véritable efflorescence de projets d'écoles un petit peu différentes et alternatives avec d'autres méthodes, Steiner, Montessori, etc. dans le Diwa et dans la vallée de la Drôme. Et peut-être les Amalins, je ne sais pas s'ils ont donné une impulsion, mais en tout cas vous êtes l'école qui a le plus d'ancienneté dans ce cas de figure. Mais je crois savoir que ce n'est pas forcément accepté par tous puisque vous avez vu récemment votre agrément éducation nationale retoqué pour des raisons que je n'ignore. Et comment situes-tu cette acceptation des écoles alternatives dans ce mouvement de fond quand même de gens qui veulent un peu faire évoluer l'éducation de nos enfants ailleurs que dans l'éducation nationale puisque celle-ci est quand même un petit peu monolithique.
Bon, c'est vrai qu'Isabelle Peloux, la directrice de l'école, serait plus à même en fait.
En quelques mots.
En quelques mots. Bah, ce qui se passe en fait, c'est que je crois qu'il faut prendre en compte qu'il y a l'éducation nationale et en fait les écoles alternes et qu'il peut y avoir en fait quelque chose entre les deux. Je crois qu'Isabelle, c'est ce qu'elle a voulu faire en créant cette école hein, qui à la base s'est posée aux Amalins parce qu'on se disait quelle planète laisserons-nous à nos enfants, ok. Quels enfants laisserons-nous à la planète? Au début, en fait, on était parti juste sur le constat de se dire on va faire des classes découvertes. Mais très rapidement, on s'est dit ouais, mais si on parle de coopération, les adultes, on part avec un handicap, c'est qu'on n'a jamais appris à communiquer, à être et à faire ensemble, donc à coopérer. Donc si en fait on met déjà cette graine très tôt chez les enfants, ce sera sans doute plus facile pour eux d'évoluer d'une manière fluide et bienveillante, on va dire en paix, quand ils seront adultes. Donc Isabelle, en fait, son constat, c'est de se dire, ok, l'éducation nationale aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est complexe en fait d'avoir l'espace pour pouvoir innover de manière pédagogique. Donc Michel Valentin lui a proposé un environnement de rêve en fait pour le faire, hein, les fonds, le lieu, le sens du lieu qui est une ferme, donc où les enfants peuvent expérimenter en direct ce qu'ils apprennent en classe. Voilà, c'est comme on dit une école au mur ouvert en quelque sorte. Et donc du coup, Isabelle, elle a pris ça en main en se disant « Ok, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est innover dans le champ de la pédagogie coopérative, donc de coopérer, mais en suivant l'instruction publique. » Parce que de l'autre côté, il y a les écoles alternatives, et il n'y a pas de mieux, moins bien, et quoi. C'est juste un positionnement de structure, de projet, de vision, on va dire, de société. Les écoles alternatives, pour certaines, elles ne vont pas suivre l'instruction publique, elles vont être dans quelque chose qui est vraiment dans un autre rythme, dans une autre vision, et ce genre de choses. Donc c'est difficile de faire rencontrer une école alternative Steiner pure, en mon sens, hein, avec l'éducation nationale, parce que c'est deux paradigmes qui n'ont rien à voir. Alors que l'école des Amalins, voilà, le précepte, on va dire, l'angle, c'est de se dire, ok, on crée quelque chose qui permet des ponts vers l'éducation nationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'Isabelle, en fait, chaque année, elle a des stages pédagogiques coopératifs et les gens qui viennent dans ces stages, c'est des instits du public qui viennent en fait s'inspirer, s'imprégner de techniques, de méthodes, de visions qui après en fait emmènent ça dans l'éducation nationale. Donc après, l'enjeu politique qu'il y a derrière, moi, enfin, il est compris comme voilà.
Te dépasse. Dernière petite question, Olivier. Quelles seraient les perspectives des Amalins? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou est-ce que vous en restez là où vous en êtes?
Bah nous, très clairement, en fait, on va dire déjà ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à fluidifier le fonctionnement de la structure. Donc on parle de gouvernance, quoi, c'est-à-dire réussir à travailler ensemble. Les Amalins, c'est un projet super complexe. Il y a 3 structures juridiques, donc des statuts salariales et d'engagement dans le projet différents des uns aux autres. Il y a aussi des prises de position de la structure qui sont complexes à faire vivre. On a intégré la partie agricole dans une SCOP, ce qui se fait nulle part ailleurs, ce qui est très complexe à gérer en termes de pérennité économique. Donc je crois qu'aujourd'hui, en fait, le vrai gros projet des Amanins, en fait, c'est de réussir à mieux s'organiser, à mieux être et pour pouvoir accueillir toujours mieux. Par contre, c'est vrai que là où on a vraiment envie d'aller plus loin, c'est d'être dans... Pas dans une excellence, le mot, il n'est pas juste, en fait, mais de réussir à faire de la ferme des Amanins une belle ferme agroécologique, qui est une ambition agroécologique, qui fait de son mieux, qui fait sa part. Mais voilà, d'essayer de montrer que l'agroécologie, effectivement, même en technique agricole, ça peut aider à nourrir le monde et à changer le monde. Et de l'autre côté, je crois qu'un gros projet, en fait, c'est autour de l'éducation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un projet de collège, je ne sais pas si on ira. Mais en tout cas, on est très sollicité autour de l'éducation. Donc voilà, il y a ça qui est dans les parages.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Alors Olivier, on va complémenter cette émission avec une petite capsule. Tu vas nous rappeler qui a porté le projet et pourquoi.
Donc les Amanins, le centre agroécologique des Amanins a été porté, on va dire, par deux personnes au début qui ont été rejointes par une troisième. Donc ces deux personnes, c'est Pierre Rabhi, un paysan philosophe, et Michel Valentin, entrepreneur et par la suite éco-entrepreneur. Puis par la suite, en fait, est venu s'intégrer à cette équipe de fondateurs Isabelle Peloux, pédagogue, institutrice et formatrice d'instituteurs, voilà, qui a pris en charge la partie école. Donc le pourquoi du projet, c'était pour répondre à deux questions qui sont: quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète. C'est vraiment l'idée d'une réponse, on va dire, à cette société qui est sans doute, comme le dit Pierre Rabhi, dans un paradigme ancien, c'est-à-dire une manière de fonctionner obsolète. Et là, l'idée, en fait, c'était de faire un lieu de sensibilisation pour le grand public, pour qu'ils comprennent là où pouvait aller cette société.
Quelles actions concrètes ont été menées pour rendre possible ces nobles objectifs?
Donc ça a été d'acquérir en fait une terre de 55 hectares, d'y implanter une ferme en polyculture élevage, à peu près sur 25 hectares, donc maraîchage, élevage ovin, bovin et grande culture céréalière. Donc voilà, une ferme, une école sur un projet pédagogique qui est dit coopératif, donc c'est une école primaire, d'enfants du CP en fait au CM2, 34 élèves, et puis en fait un centre de formation et d'accueil, donc à la fois touristique, écotouristique, on va dire des vacances écologiques, et formation dans le sens de formation autour de l'agroécologie, sur les thèmes de l'éducation, de la gouvernance, de l'éco-entrepreneuriat, du changement, de la construction, des énergies, voilà, ce genre de choses.
Combien a coûté le projet en matière financière et puis peut-être en matière d'investissement humain?
Combien a coûté le projet de Amanins? Je pense que c'est un peu compliqué dans le sens où c'est un projet qui a été très vite parce qu'il a été financé par un entrepreneur unique, Michel Valentin. Il a coûté autour de 3,5 millions d'euros. Donc ça a été une équipe pour la construction d'à peu près une vingtaine de salariés. Et puis aujourd'hui, en fait, ça s'est stabilisé autour d'une société coopérative de production, autour d'une quinzaine de salariés.
Si tu devais faire un bilan rapide, peux-tu en quelques mots nous rappeler les aspects positifs de ce projet, voire les aspects qui ont moins bien fonctionné?
Alors les Amanins, c'est vraiment un lieu en fait de rencontre et de partage entre citoyens. Ce qui a très bien fonctionné, et ce qui, enfin, en mon sens, hein, c'est que c'est un projet qui s'est monté assez vite avec l'énergie d'un fondateur qui s'est dédié à tout ça, qui est Michel Valentin. Et puis je trouve qu'il y a une équipe en fait qui est dans une bienveillance forte en fait et une envie de travailler ensemble et d'œuvrer pour ce projet des Amanins, qui est un beau projet, qui a une belle raison d'être, quoi. Voilà, après les points de difficulté, c'est toujours pareil, hein, réussir à pérenniser un projet comme celui-ci. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est à peu près pérenne, on va dire économiquement. C'est quand même 400 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 avec l'association. Et que dire, bah voilà, sinon, bah les enjeux, c'est toujours en fait réussir à bien faire ensemble et puis à continuer à se faire connaître et puis à exister, ouais, à exister de la meilleure des manières.
Est-ce que tu accepterais de livrer un numéro de téléphone, ouais, si des gens voulaient refaire un Amanin bis?
Ah bien sûr, donc les Amanins, donc ça se trouve à La Roche-sur-Grane, le quartier des Rouins. Donc ça c'est pour l'adresse, en 26 400. Et le numéro de téléphone c'est 04 75 43 75 05. Et si vous voulez envoyer un mail, c'est info@lesamanintoutaccroché.com.
Olivier, je te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à toi Louis et merci aux auditeurs de Radio Diwa.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotope.
un programme soutenu par BioValley.